Et merci à tous d'être présents. Ça fait déjà presque un peu plus de mi-chemin, puisqu'on est quand même au beau milieu du troisième jour. Et on a ce rendez-vous maintenant depuis 3 ans. Je ne sais pas si je serai la modératrice l'année prochaine de cette table ronde, ou plutôt de ce café littéraire sur l'anthologie, parce que je démarrerai par ça. Cette anthologie Victimes et bourreaux que j'ai eu le plaisir de réunir et que donc je défendrai devant vous aujourd'hui, qui est la troisième du anthologie du Festival Imaginal en partenariat avec les éditions Mnemos, la troisième que j'ai eu le plaisir de diriger après Roi et Capitaine et Magicienne et Sorcier. Ça sera la dernière, je ne dis pas la dernière du festival, mais ça sera la dernière que j'animerai tout simplement sur ma propre décision, parce que j'aime bien parfois changer de projet. J'ai d'autres choses à faire, j'ai une autre anthologie qui sortira, mais là pour la jeunesse, l'année prochaine, vous l'aurez aux Imaginales. Pas cher, beaucoup d'exemplaires et pour les jeunes collégiens. Voilà, sera la première en France en direction de jeunes collégiens. Et puis que j'ai d'autres projets, mais bon, c'est trop tôt pour en parler. C'est ça aussi les Imaginales pour toute l'équipe. C'est des idées, des rencontres, des projets, et un projet chasse un autre. C'est aussi le plaisir de voir bruire plein d'idées, plein de choses, et de pousser des jeunes auteurs et de les voir grandir et vieillir aussi avec nous. Et avec notre public, puisque maintenant, au bout de 10 ans, on retrouve avec plaisir des visages connus. Et puis, on découvre chaque année des têtes qu'on ne connaît pas et dont on se dit, s'ils sont venus une fois, c'est cuit, ils seront là l'année prochaine. Voilà, les formules magiques jetées sur le public font que on sait qu'une seule fois, et c'est fini, on revient aux Imaginales. Donc, plaisir de vous retrouver, plaisir de faire ces anthologies. Et donc, l'année prochaine, encore une fois, je ne sais pas si je serai la modératrice, mais vous aurez un nouvel anthologiste de l'équipe du festival qui vous présentera la 4e édition. Et avec affection et bienveillance, je regarderai le travail qu'il a fait, en quoi il est semblable et en quoi il est différent. Et c'est ça aussi la richesse d'un milieu d'imaginaire où on sait travailler collectif dans un monde et dans une période où tout le monde ne sait pas travailler en équipe et où parfois c'est le chacun pour soi, écrasons le voisin, mais non, on peut construire des choses passionnantes en groupe. C'est aussi des choses qu'il faut dire, et c'est aussi peut-être l'esprit des Imaginales, au-delà de la diversité des individus qui les réalisent. Alors la diversité, elle est aussi là, autour de moi, puisque j'ai choisi, c'est toujours un peu injuste, 4 des 12 auteurs de cette anthologie. Ceux et celles qui ont lu les précédentes auront remarqué qu'on retrouve des auteurs. Alors j'avoue, comme les mauvais maîtres, j'ai mes chouchous. Pierre Bordage, par exemple, que je retrouve 3 fois de suite. Bon, c'est surtout moi qui ai beaucoup de chance qu'un auteur de l'envergure de Pierre Bordage accepte de nous écrire à chaque fois une nouvelle, malgré des tarifs raisonnables, on va dire. Mais bon, ils ne sont pas non plus les ponts d'or auxquels les grands auteurs sont habitués. Voilà, mais bon, il nous fait l'amitié d'accepter. Et autant j'ai beaucoup aimé les 2 précédentes, autant, et je ne suis pas la seule à le lui avoir dit, même s'il a l'air étonné, sa nouvelle est exceptionnelle. La nouvelle qui nous a, voilà, modestie, mais franchement, c'est une nouvelle extrêmement forte, vraiment extrêmement puissante sur le thème victime et bourreau. Et bon, il nous en dira 2 mots, mais évidemment, faut pas trop révéler la suite. Charlotte Bousquet, alors bon, vous commencez à la connaître, c'est le coup de cœur du festival. Ah, qu'elle est là depuis 3 ans, et j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. C'est aussi ça, peut-être, la magie du festival, des rencontres, et du fait que, au-delà du talent, il y a des liens de sympathie. C'est aussi des choses que vous devez sentir, vous, dans le public. Pas de bande de copains, c'est pas du tout ça. Parce que ce qu'on fait, c'est aussi avec vous et pour vous. Mais j'en profite pour le dire, c'est aussi du respect, de la sympathie, de l'envie de réaliser des choses ensemble. J'ai cité Pierre Bordage, qui est autour, mais je pourrais citer aussi Lionel Davoust, qui est depuis 10 ans un fidèle du festival, d'abord comme collaborateur, puis comme écrivain de fantasy avec beaucoup de talent, des nominations et un prix Imaginal et franchement pas surfait, et puis des premières publications dans le monde anglo-saxon, ce qui est toujours un très bon signe. Et puis l'année prochaine, il nous reviendra, Lionel, pas seulement dans cette anthologie, pas seulement comme collaborateur fidèle du festival et traducteur, il nous reviendra aussi avec son premier grand roman d'une série qu'il a signée et que donc on aura le plaisir de découvrir l'année prochaine. Et puis Jana Deba, alors comme on dit quand on veut aller vite et qu'on ne sait pas quoi dire, qu'on ne présente plus, si on la présente quand même, elle est enseignante, comme un certain nombre d'entre nous le sommes ou l'avons été, mais elle est avant tout une révélation de la science-fiction de ces dernières années. Je vous incite à lire Plager, son roman chez l'Atalante, qui est extrêmement puissant. Et puis je vous incite aussi à lire son recueil de nouvelles, à voir à quel point elle a été capable de renouveler, de dynamiser les thèmes classiques de la science-fiction. Je rappelle que son premier texte important publié a obtenu 4 prix, c'était 3 au début, je crois que c'est 4 prix de science-fiction. Voilà, en gros, tout raflé, ça a un peu énervé, mais tant pis, c'est aussi comme ça qu'on découvre de nouveaux auteurs. Voilà. Et bon, à force, quand on a autant de prix et que son talent éclate, y compris en jeunesse, ça énerve. On dit quand même, elle va avoir la grosse tête, on va quand même un peu calmer Jeanne Adéba. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire à Jeanne Adéba? On va lui dire, en science-fiction, d'accord, mais en fantasy, montre-nous ce que tu vaux. Finalement, Jeanne a été mise au défi, et c'est sa première nouvelle de fantasy. Et puis, Nathalie Do, qui n'avait pas encore été dans les premières éditions du festival, mais qui avait toute sa place pour une raison simple, c'est qu'elle a gagné le prix imaginal de la nouvelle. Alors, c'est la preuve que c'est une des très bonnes novelistes de la fantasy française. Alors, ben voilà, un oubli entre guillemets réparé, elle est dans la 3e anthologie, avec un texte qui là aussi a pas mal marché. Je parlais donc de Jeanne quand je lui ai téléphoné pour lui dire est-ce que tu es capable ou est-ce que vous êtes capable de nous faire un texte de fantasy. Elle a relevé le défi. Pourquoi jamais de fantasy avant et pourquoi cette première nouvelle seulement maintenant, Jeanne?
Eh bien, en fait, parce que jamais de fantasy avant, ça n'est pas vrai. Sauf que le roman n'est jamais sorti. Il n'était absolument pas mature. Il y avait tous les défauts qu'on peut attendre d'un premier roman, que j'ai fait dans le second roman aussi, hein, je vous rassure tout de suite. Cela dit, je serais un peu comme Pierre Bordage, qui fait parfois semblant de faire de la SF. Je crois que je fais semblant de faire de la fantasy, en fait, quelque part. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être science-fictive au fond de cette nouvelle-là. On ne change pas le hardware. Donc, en fait, c'est une nouvelle de fantasy qui a le goût, qui a l'odeur, mais qui triche. Voilà. Je suis vraiment désolée. Je ne peux pas faire autrement.
Et Nathalie Do, prix imaginal de la nouvelle pour les contes myalgiques.
Oui, en 2008.
Voilà, en 2008. Et donc, en 2011, dans l'anthologie. Quand on est une novelliste déjà reconnue à la fois par un prix et par les anthologistes, qu'est-ce qui fait la différence entre écrire un roman et écrire une nouvelle?
En fait, j'ai commencé par la forme longue. Même si je faisais des romans courts, enfin, les premiers publiés étaient des romans courts. Et je suis venue à la nouvelle, en fait, par Stéphane Marsan, qui m'a proposé de participer à ces anthologies. Et ensuite, comme j'ai eu des enfants et que ça me prenait énormément de temps, et que l'univers de fantasy dans lequel je développais un cycle me demandait une immersion très profonde, une immersion que je ne pouvais pas faire en ayant des petits-enfants, j'avais quand même ce besoin d'écrire qui est vital chez moi, comme chez la plupart d'entre nous d'ailleurs. Et j'ai écrit des nouvelles. Ça m'a permis d'explorer ce que j'appelle mon imaginaire terrestre, puisque dans les romans, c'est un autre monde, un monde secondaire que je bâtis depuis plus de 20 ans. Et c'est... Pour moi, il n'y a pas vraiment de différence, si ce n'est que dans le roman, j'ai plus de place pour développer mon intrigue et pour mettre davantage de personnages, plus de rebondissements. Mais je mets la même intensité et la même passion, que ce soit dans la nouvelle ou dans le roman. Et pour toi, en plus, Stéphanie, je me suis rajouté un défi. C'était d'écrire une nouvelle qui se suffise en tant que nouvelle, mais qui se situait dans l'univers de ces fameux romans, qui ne sont toujours pas parus, parce que je suis encore en train de travailler dessus.
Pourquoi j'ai envie de dire « size doesn't matter »
Oui, pour notre public.
La taille ne compte pas.
Oui, aussi.
C'est une femme qui le dit, alors on va la croire. Pierre Bordage, on va enchaîner sur un homme. Non, on change de sujet.
Merci, Jeanne, pour la transition.
Qui allait tout de suite le mettre à l'aise. Pierre. Pierre, oui. Bon, c'est pas pour l'argent, je l'ai dit dès le début. Pourquoi, alors que quand même, bon, vous êtes quand même extrêmement sollicité par vos éditeurs habituels et par pas mal de projets, pourquoi vous avez néanmoins accepté de prendre un peu de temps pour nous faire 3 années de suite des nouvelles de fantasy pour cette anthologie des imaginales?
Eh bien, pour vous complaire, cher ami.
Je ne suis pas un novelliste naturel, donc j'ai besoin d'être provoqué pour faire des nouvelles. Je vais rarement dans une nouvelle tout seul, quoi. Souvent, c'est un format de roman. Et quand on me sollicite, j'ai tendance quand on m'impose un sujet, voilà, il faut qu'on m'impose un sujet pour que je fasse des nouvelles. Et j'adore, du coup, relever ce défi qui est, à partir d'un sujet imposé, de poser mon univers. Et donc, pardon, j'ai découvert l'exercice de nouvelles vraiment tardivement. J'ai mis longtemps, je me suis rendu compte que le milieu était très consommateur de nouvelles, demandait énormément de nouvelles, me réclamait les nouvelles, et je ne savais pas faire ça. Donc ma première nouvelle était, alors parce que je suis pas d'accord avec Nathalie du coup, parce que je pense que c'est pas la même chose d'écrire une nouvelle et d'un roman, enfin pour moi, c'est comme ça que je le ressens, ma première nouvelle était un roman raté, c'est-à-dire que je me suis installé dans le format roman, puis je l'ai raccourci, et ça n'avait pas du tout la force d'une nouvelle. Et petit à petit, en faisant des nouvelles, je me suis rendu compte que la nouvelle était un exercice très particulier, qui obligeait déjà à polir et à préciser l'écriture. Moi, j'ai tendance à m'étaler. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu mes romans, c'est un peu proliférant. Et là, j'étais tenu par la forme courte, donc une obligation de précision qui était très utile pour moi pour l'écriture, parce que ça aussi m'obligeait à préciser pour les romans. Et ensuite, c'est un formidable laboratoire. C'est-à-dire que dans la nouvelle, comme il n'y a pas d'investissement émotionnel, comme disait Nathalie, dans les romans, on est obligé de s'investir très, très profondément. Dans la nouvelle... si on la rate, c'est pas très grave finalement, parce qu'il n'y a pas eu le même investissement, donc ça m'autorise beaucoup plus d'audace. Je suis pas du tout audacieux comme romancier, je suis quelqu'un de très classique dans la forme, formé par le latin et tout ça, donc avec une sorte de rigueur géométrique dont j'ai du mal à me départir. Et dans la nouvelle, je me suis autorisé tout, à peu près tout, et je ne m'interdis rien. Donc à chaque fois qu'on me propose, en plus ce sujet comme Victor Hugo, qui est un sujet absolument magnifique, à chaque fois qu'on me propose maintenant une nouvelle, ça m'intéresse parce que ça va me permettre d'expérimenter quelque chose dans l'écriture. Et souvent je travaille très très rapidement dans la nouvelle, c'est-à-dire que j'essaie de, aux grands espoirs des anthologistes souvent qui me téléphonent, hey, c'est où la nouvelle, tiens je te donne un délai supplémentaire, enfin Stéphanie connaît bien, ça m'accorde souvent des délais supplémentaires parce que j'attends toujours le dernier moment pour que j'ai aucune idée du sujet, hein. Je sais pas du tout ce que je vais raconter, rien. Et je dis, bon, ça va, maintenant elle a ça tendu, c'est bon, il faut que je vous lise la nouvelle ou je vais pas y être. Et donc je pars, je suis le matin devant mon ordi et je plaque, ça part. Et pendant, ça dure un jour et demi. Si je passe plus de 2 jours, c'est pour ça que bon, l'argent, c'est un problème vraiment très secondaire. Parce que si je passe plus de 2 jours dans une nouvelle, pour moi, je pense que j'ai raté quelque chose. Donc, il faut vraiment que ce soit un exercice court à sur tous les plans, à la fois sur le plan de l'écriture, à la fois sur le plan de la durée de l'écriture. Et après, c'est devenu pour moi, moi qui n'avais pas du tout d'attrait pour ce genre au début, c'est devenu une vraie jubilation que de faire des nouvelles. Donc, j'attends. Comme sollicitez-moi, s'il vous plaît.
Franchement, quelle chance, parce qu'avoir quand même Pierre Bardoche de Sommaire, ça aide pour les ventes aussi, il faut le reconnaître. Merci Pierre. Charlotte, qui est une romancière qui écrit assez vite finalement des livres pourtant de qualité, j'ai remarqué que vous avez quand même commencé maintenant à avoir une vraie productivité quand même.
Et oui, d'ailleurs, on l'a reproché il n'y a pas très longtemps.
Des jaloux.
Mais tu écris trop, et
des,
non.
Des jaloux. Quand on reçoit une sollicitation, pas la mienne, c'est pas ça qui compte, mais du festival pour être dans l'anthologie, sur un thème quand même aussi pas évident que Victime et Bourreau, comment on réagit ?
Plutôt très bien. Victime et Bourreau, c'est un très très beau sujet. en fait, tout simplement, je crois que j'avais... C'est venu assez, assez naturellement. Je devais avoir une idée de Victime et de Bourreau en tête. De toute façon, j'avais déjà lu quelques essais, mais pour mon plaisir personnel, sur la torture, sur ce genre de choses. Donc, quelque part, c'est rentré dans le cadre. Et surtout, j'ai eu la chance de voir une représentation de La Mégère apprivoisée de Shakespeare, qui était non pas axée sur le côté comique, mais sur le côté affreux de comment on arrive à détruire la personnalité d'une femme, hein, qui est quand même aussi une des thématiques de cette pièce de Shakespeare. Et puis, en fait, j'ai commencé à écrire là-dessus, en partant vraiment sur ce thème. Qu'est-ce qui va pousser un homme à vouloir... à vouloir finalement détruire une femme, à vouloir détruire une personne. Qu'est-ce qui fait qu'on préfère avoir un être humain qui n'est plus d'humain que l'apparence, et surtout comment on peut résister et comment on peut essayer de s'en sortir et avec quelles armes. Et je crois que c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à construire la nouvelle.
Sous mes fesses, une paillasse grouillante de vermine. La pierre dure, rugueuse, râpe mes côtes et mes épaules. En saignant mes poignets, écorchant ma peau au moindre geste, des menottes de fer épaisses et rouillées. Je suis seul, dans cette cellule vaguement éclairée par la lueur jaunâtre d'une torche de l'autre côté de la porte. Seul avec la rage au ventre, ils sont venus m'arrêter sur mon territoire, devant mes clients, et cette angoisse poisseuse, née des empreintes laissées par ceux qui m'ont précédé ici, tentant, pareil à ces insectes parasites qui pondent leurs œufs sous la peau, de s'immiscer en moi, à l'intérieur de mes chairs. Je résiste. Des souvenirs qui ne sont pas les miens affleurent pourtant, je les repousse de toutes mes forces. Les heures s'égrènent, solitaires. Les bras, suspendus au-dessus de ma tête, me tirent. Assise, agenouillée ou courbée comme une vieille, je me tords en tous sens pour soulager des muscles crispés à l'extrême. À la chaleur croissante qui sèche mes lèvres et transforme en colle l'intérieur de ma bouche, je devine que le soleil approche de son zénith. Une nuit entière s'est donc écoulée depuis qu'on m'a jeté ici. Mon estomac gronde et brûle. Ma vessie pleine à ras-bord tend douloureusement mon ventre. Je ne vais plus pouvoir me retenir longtemps. Venant du couloir, je perçois de temps à autre des voix. Les gardiens, sans doute, chargés de surveiller les geôles. Je pourrais crier, pleurer, appeler à l'aide, supplier qu'on ôte mes chaînes le temps que je me soulage ailleurs que sur cette paillasse, tachant mon boubou et mes jambes, quelqu'un finirait par venir, fût-ce pour m'ordonner de me taire. Mais je devine que c'est exactement ça qu'ils attendent. Ils veulent que je me dépouille peu à peu de ma fierté. Ils veulent me peler comme un oignon, m'arracher toute dignité, hors de question. Je ne les laisserai pas faire. C'est d'ailleurs un extrait de la quatrième de couverture. C'est l'introduction de la nouvelle de Charlotte Bousquet. La stratégie de l'araignée, et c'est aussi le début de ce texte. Donc un texte, une des premières critiques qui est parue sur le net, plutôt favorable, donc j'en suis ravi, mais a dit « j'ai manqué de refermer le livre à cause de la première nouvelle et la violence de cette femme confrontée à la torture ». Je vous rassure, ça n'est pas nécessairement une nouvelle qui se terminera mal, mais en tout cas c'est à ça le moment que cette femme enchaînée va passer. Et quelque part, on pense bien évidemment à tous les êtres humains qui, par le passé, aujourd'hui ou demain, malheureusement, seront confrontés à de telles choses. Et ça nous renvoie, tout en étant de la vraie imaginaire et de la vraie fantaisie, à un sujet qui, quelque part, peut bousculer, déranger et bouleverser. Et malgré tout, c'est de la littérature. Malgré tout, il y a de l'espoir et il y a de l'amour. Et c'est ce pari-là que vous avez réussi. C'est entre autres ce pari que vous avez réussi, Charlotte Bousquet, à la fois dire les choses, écrire les choses, faire deviner les choses, sans complaisance obscène, mais sans faux semblant, et pourtant montrer que l'espoir et la résistance sont possibles, c'est parfois aussi l'avantage de la littérature sur la vie. Charlotte Bousquet, pourquoi vous avez fait ce double choix ?
C'est une bonne question. Parce que peut toujours en rapport quelque part avec l'actualité. Parce que ce sont des choses qui me mettent énormément vraiment en colère, et parce que je pense qu'on peut résister, être une victime, c'est déjà, enfin, comment dire, que le mot victime est déjà quelque part une insulte, qu'on a toujours en soi peut-être la possibilité, et d'autant plus en littérature, de s'en sortir, de résister, de trouver une forme de résistance, et que qualifier quelqu'un de victime, même si c'est vrai, même si on peut subir des choses horribles, ça peut être aussi l'enfermer dans un rôle, et justement l'empêcher de s'en sortir, l'empêcher de vivre, et empêcher l'espoir. Donc effectivement, j'ai choisi de faire en sorte qu'il y ait l'espoir, qu'il y ait cette résistance, une résistance qui ne se fait pas sans violence, sans souffrance, mais qui est, à mon sens, possible. En tout cas, effectivement, dans ce texte, qu'il l'est.
Autre univers, autre monde, frère d'armes, une académie chargée de protéger un monde, des pouvoirs, l'initiation de jeunes, les bourreaux sont parfois aussi dans les écoles. Les jours passèrent et les premières cérémonies d'initiation commencèrent pour les novices. Ce n'étaient que des jeux, des plaisanteries souvent stupides, destinées à souder les jeunes poings entre eux. Les enfants venaient de tant d'endroits différents, de milieux à des milliers de lieux conceptuels les uns des autres, qu'apprendre à se connaître un peu était déjà une gageure, sans parler de se comprendre ou d'éprouver un minimum de loyauté. Les points communs entre une orpheline des rues de Sandre et un fils de haut marchand issu de la dynastie de la Perle se réduisaient à leur commune humanité, ce qui n'était pas grand-chose. L'Académie avait beau afficher sa devise égalitaire à l'entrée du passage de l'Arche, « Nul n'entre ici qui ne soit prince à venir des royaumes », les vieilles habitudes sociales se manifestaient souvent de la pire des façons. Aussi, grands élèves et majeurs des premières années s'amusaient à débarquer en pleine nuit dans les couloirs, déguisés en fantômes, poussant des hurlements à glacer le sang. Ou bien d'autres, aux talents plus matures, matérialisaient d'improbables figures de l'ennemi au moment les plus inattendus, les plus inopportuns. Ken était de ceux que ce jeu amusait le plus, et son don était si puissant que parfois il jouait sans bouger de son lit. Son lame, Amber, s'en plaignait auprès de moi depuis toujours. Ken était capable d'invoquer n'importe quoi, même en faisant autre chose. Amber n'avait pas besoin de me préciser de quelle autre chose il s'agissait et pourquoi cela le vexait si atrocement. Poursuivi par des monstres immatériels jusque dans les toilettes, les novices étaient sur le qui-vive en permanence, sursautant au moindre bruit. Il leur faudrait quelques soirées encore pour se rendre compte tout seul qu'ils ne risquaient rien et que les horreurs les plus effrayantes n'étaient que fumée, moins solide que le plus impalpable des rêves. Quel est ce monde, Jeanne Adéba, cette académie où la formation des jeunes passe par une sorte de brutalité, où le sadisme affleure chez des gens que pourtant on devrait normalement considérer comme des éducateurs?
C'est pas le nôtre. De facto, s'il y a une chose qui m'a toujours révoltée, tant en tant qu'élève d'abord et puis professeur ensuite, c'est le système du bizutage. J'ai toujours trouvé que cette façon de formater les esprits était une horreur totalement paradoxale avec ce qu'on prétendait enseigner. Et je pense notamment au bizutage de l'école de médecine qui peuvent être si rudes et que Martin Winkler a dénoncé lui-même dans son œuvre d'une façon si nette et si précise. En tant qu'élève, j'y ai eu affaire. C'est une révolte qui ne m'a jamais quittée. Et tu m'as donné l'occasion de l'exprimer ici. De toute façon, je ne change pas de peau là non plus. Je suis enseignante et c'est quelque chose contre lequel je me bats extrêmement souvent.
J'ai aimé tous les textes, sinon je ne les aurais pas publiés. Mais c'est vrai que le texte de Jeanne m'a touché, peut-être aussi comme bientôt ex, mais encore un petit peu enseignante. Et je l'ai été une douzaine d'années, tardivement mais avec passion. Et en effet, c'est une des choses qui m'a révolté que des collègues, où ce qui en tient lieu puisse se comporter ainsi avec des jeunes, et pas seulement dans des grandes écoles, y compris parfois dans des lycées, où on peut avoir des préjugés de tous ordres. C'est pour ça que cette nouvelle m'a beaucoup touché. Je pense qu'en effet, elle est purement une nouvelle de fantaisie, dans l'univers, la magie, etc. Mais elle nous fait aussi réfléchir sur la responsabilité qu'on a de respecter les gens qu'on forme, que ce soit d'ailleurs des enfants, des adolescents, des adultes. Et puis encore une fois, ça nous renvoie entre le va-et-vient permanent, entre ce qu'on est, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit, ce qu'on aimerait que les gens qu'on aime, et puis finalement tout le monde ne vive pas nécessairement, et puis ce que la littérature nous permet comme évasion. Voilà, c'est un peu ça la nouvelle de Jeanne, mais avant tout c'est une belle, belle nouvelle de fiction. Vous, Nathalie, c'est un autre choix que vous avez fait, c'est un autre rapport, c'est une autre douleur. Finalement, c'est peut-être vous, dans ce texte avec Pierre Bordage, les moins optimistes. Je vais donc prendre un passage relativement modéré. Ne lui restait plus que des filles, donc, mais l'aînée, seule mariée, s'était révélée sèche, et la cadette délirée depuis un accident de chasse. Alors Cerdre, oui, la benjamine, menue, délicate et discrète, fleur de jardin enclos, de courette au parfum d'aromates et de simples. tout autour, délimitant ses horizons, les murailles érigées par ses ancêtres, le gris laiteux de Vaucastel. Elle n'avait pas appris à chevaucher, ni à commander un faucon, à reconnaître les sentiers qui sinuaient vers la montagne. Elle n'avait pas non plus reçu le droit d'entendre les chansons des bardes, ni d'applaudir les dresseurs et les acrobates. Son père avait tenté de tout lui épargner, priant les dieux pour écarter la maladie, éloignant les jolis minois et les langues de miel, barrant tous les accès vers l'extérieur et ses dangers. Mais il n'avait pu empêcher la mainmise du temps, qui malaxait l'enfant pour la sculpter en jeune fille. Cerdre était désormais nubile, son nom figurait sur les listes du suzerain, et le bréon Gautlandris enchaînait les soupirs, partagé qu'il était entre la crâne des adieux et son désir de descendance. « Elle a déjà passé 16 ans, lui répétait sa conscience, et tu ne t'es pas occupé de son initiation. » C'était au-dessus de ses forces. Tant que sa petite chérie ignorait tout des choses de l'amour, elle pouvait demeurer sous son toit, et lui pouvait la voir lorsque bon lui semblait. « Mais tu ne peux plus freiner des cas de fer, vieux fou. C'est un ordre de Siolène, roi ou margrave. Dans tous les cas, tu lui dois allégeance. Alors, il va falloir agir. » Un soupir de nouveau. « Mais pourquoi ? Pourquoi, ma cerdre ? Quel autre choix, en vérité ? Quelle autre fille assez bien née pour ancrer les tribales dans la noblesse des montagnes ?» 20 fois, Gaute déroula la missive. On étudia chaque terme et la laissa se refermer en regrettant qu'elle lui soit parvenue. « Et c'est à moi, gémit-il, à moi que l'on commande d'organiser la rencontre. » Ses sourcils déplumés se froncèrent. « Peut-être pourrait-il négocier quelque arrangement, qu'on lui confie le premier fils, par exemple, et qu'il hérite de son nom, afin que les Landis soient empêchés de disparaître. » Finalement, il prit sa plume et répondit. « Et le malheur bientôt arrivera. »
Eh oui.
Le thème que vous avez abordé, sans déflorer l'intrigue, Nathalie, c'est un amour d'un homme pour une femme et un amour qui, par le biais de la jalousie, va se transformer comme malheureusement, il se transforme parfois entre conjoints, mariés ou non, lorsque l'homme se comporte comme un dominant, comme un brutal, comme un pervers, même si au départ il était réellement amoureux. C'est en fait un drame de l'amour que vous nous racontez.
Plus qu'un drame de l'amour, c'est comment un individu, justement à cause de la jalousie, devient l'artisan de son propre malheur et du malheur d'autrui. Charlotte faisait référence tout à l'heure à une œuvre de Shakespeare, La Mégère apprivoisée, et j'avoue que moi-même, j'ai également été inspirée par une œuvre de Shakespeare, c'est-à-dire Othello. Cerdre est effectivement le personnage féminin qui a grandi extrêmement protégé par son père et qui tombe amoureuse de cet époux qu'on lui impose. Lui aussi, il s'éprend d'elle. Je ne sais pas si, une fois qu'elle est mariée, elle n'a pas vraiment à se plaindre du comportement de son époux, si ce n'est qu'il lui fait jamais vraiment confiance, sa jalousie étant née avant même les noces. Et son acte de brutalité ayant eu lieu avant les noces, même si c'est pas elle qui en a été victime, ça l'a quand même traumatisée et ça va nuire à ce couple. Mais physiquement, il lui aura jamais fait de mal. C'est effectivement davantage au niveau psychologique qu'il aura été son bourreau, par cette confiance qu'il lui refuse, surtout au dernier instant, lorsqu'elle nous quitte.
On voit déjà à travers ces trois extraits, ces trois voix, que le défi que nous avions lancé, victime et bourreau, a été relevé de façon d'ailleurs brillante par des auteurs qui ne sont pas tombés dans le piège, encore une fois, de la complaisance, du goût pour l'ultra-violence, même si, on va le voir avec Pierre Bordage, parfois rien ne nous sera épargné. Et puis quand même un petit début, c'est vrai de la vraie fantaisie, on est très loin de l'univers actuel et pourtant, la première phrase... C'est quand même parfois le poste de radio derrière qui lance l'idée, même si on plonge dans un monde très lointain. L'alliance formée des rebelles des provinces de l'Ouest et des troupes des deux royaumes voisins défie les armées de Stadimir l'Empaleur dans la plaine du Constaré. Plus de 300 000 hommes périrent au cours des combats qui se prolongèrent 7 semaines. Capturé juste au moment où, déguisé en soldat, il s'apprêtait à fuir, Stadimir fut enchaîné, encagé et emmené sous Bonnestor à Mangol, la capitale du royaume de Lougour. La cité pavoisée accueillit les vainqueurs dans une liesse indescriptible. Le triomphe des coalisés mettait fin à une terreur et une misère de 30 interminables années. On arracha en toute hâte les pales qui se dressaient sur les places, et dans les rues principales de Mongol, les sinistres pieux qui ployaient encore sous le poids des cadavres pourrissants et infestés de mouches. Les habitants de la cité n'avaient pas osé s'en prendre au symbole honni du tyran tant que l'incertitude planait sur l'issue de la bataille. On exposa Stadimir entièrement nu dans une cage de fer sur l'esplanade du grand temple de Xor, le dieu protecteur de l'Ougour. 7 jours durant, une population braillarde, furieuse, joyeuse, vengeresse, avinée, défila devant le scélérat qui, 30 ans plus tôt, avait renversé le vieux roi, massacré ses partisans et instauré la terreur. 7 jours durant, elle l'accabla d'injures et de crachats. 7 jours durant, les hommes l'arrosèrent de leur urine et les femmes déversèrent sur lui des baquets remplis de purin. 7 jours durant, les enfants lui lancèrent des os taillés en pointe ou des pierres aux arêtes tranchantes. Il ne réagit pas, prostré sur le plancher métallique, se protégeant la tête et les organes vitaux de ses bras, croupissant dans ses propres excréments. Le soir, lorsque sonnait la corne du couvre-feu ordonné par le conseil provisoire, les gardes l'aspergeaient d'eau claire afin de laver ses plaies purulentes et de rincer sa cage. On lui servait du gruau, des pommes de terre, du pain dur et une cruche de vin aigre. Le silence retombait sur la cité, troublé par les vociférations des soldats ivres et les vaticinations des mendiants sacrés de Xor, les seuls civils autorisés à circuler dans les rues entre la tombée de la nuit et le lever du jour. Le 8e jour débuta le procès solennel de Stadimir l'Empaleur. Le conseil nouvellement formé de hauts magistrats de Mongol décréta que l'exécuteur de la sentence serait l'homme ou la femme dont le témoignage se montrerait le plus accablant pour le despote déchu. Tout Longourien ayant souffert de la tyrannie de l'imposteur était invité à témoigner en public. Le conseil déciderait ensuite à quelle victime reviendrait l'honneur de trancher la corde au-dessus du dernier pal planté devant l'estrade où siégeraient les magistrats, l'état-major des armées coalisées et les 3 grands prêtres de Xor. Rien, bien sûr, Pierre, sans révéler la suite, ne va se dérouler comme on l'imagine.
Non, mais si je le dis...
Non, on va pas le faire. Simplement, pourquoi avoir choisi dans votre nouvelle un personnage qui, au départ, même si ce qu'on lui fait n'est pas très sympathique, on le concevra, n'est pas un homme qui peut au départ attirer la pitié.
Parce que le thème victime et bourreau, je me suis surtout penché sur le mot bourreau, parce que j'avais l'impression que le bourreau, c'était la figure repoussoire dans laquelle personne n'accepte de se reconnaître, et donc sur laquelle on se venge terriblement dès que le bourreau a été mis hors d'état de nuire. Et parce que ça masquait quelque chose, me semblait-il, cette haine que l'on porte au bourreau, c'est sa propre propension à devenir bourreau. Et je me suis un peu basé sur une phrase de l'Évangile qui est que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et nous sommes très prompts à jeter des pierres à toutes les figures maléfiques qu'on nous propose, sans jamais, et ça nous permet de jamais nous remettre en cause dans tous nos petits accès de bourreau que l'on peut avoir dans la vie quotidienne et qui sont très nombreux finalement, parce qu'on a tous quelque part, me semble-t-il, hein, je ne vais pas vous inclure là-dedans non plus, hein, certainement que vous êtes des gens très très bien aussi, on a tous cette espèce de tentation du bourreau, et on devient tous bourreaux, parfois de façon très ténue, dès qu'on a affaire à nos propres enfants, à notre propre famille, à nos voisins, à nos collègues de travail, etc. On a tous des petites attitudes de bourreau. Et c'était juste pour inciter les gens à dire, mais finalement, ce bourreau, cette figure monstrueuse qu'on me propose et sur laquelle je crache, parce qu'elle me fait peur, parce que moi-même, je peux être un bourreau. Et c'était ça mon idée en écrivant la nouvelle. S'interroger vraiment sur la figure du bourreau, est-ce que ça symbolise et les peurs que ça soulève en nous. Comment excusez-moi d'avoir glacé l'ambiance.
Non, mais pas du tout. Charlotte, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, c'est qu'en fait, dans les pratiques de guerre, les anciennes victimes deviennent souvent bourreaux aussi. C'était simplement ça. Et que Et qu'effectivement, on n'empêche pas la vengeance. Je veux dire que les... un ouvrage que j'ai lu récemment, donc du bon usage de la torture, explique toujours cette espèce de truc, mais en même temps, ce type qui a tué, ce type qui a ceci, et effectivement, il y a cette volonté de projection de vengeance populaire, truc comme ça, qui fait qu'à la fois, on va s'identifier au bourreau qui exécute, mais qu'en même temps, on n'a qu'une seule envie, c'est que c'est qu'on lui demande de le rejeter, mais qu'il y a toujours cette ambiguïté, et c'est ce que j'ai énormément aimé, d'ailleurs, dans ta nouvelle, c'est cette ambiguïté, ce fait que finalement, même le lecteur, quand il ferme cette nouvelle, a du mal à se regarder en face.
C'est pour ça que une des figures pour moi les plus marquantes du bourreau malgré lui est celui des résistants de la dernière heure qui tournent les femmes à la libération. Et pour moi, ça c'est un truc absolument monstrueux, quoi, parce que d'un seul coup, tous ces gens se déversent leur propre propension à devenir bourreaux sur des femmes sans défense et en les désignant la vindicte populaire. Et je trouve ça. Ça m'a beaucoup. Cette scène-là m'a toujours énormément interpellé, les femmes tendues de la libération. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a toujours blessé profondément.
Il y a une photo extrêmement célèbre qui est particulièrement choquante de voir ce rire des hommes et cette femme. Peu importe qu'elle est. Parce que ces gens qu'on tondait, ce n'est pas des gens qu'on condamnait. Donc, ce n'est pas des gens qui avaient dénoncé.
C'est juste parce qu'ils avaient couché avec des Allemands. Vous avez été amoureuse d'Allemands, ce qui est. L'amour n'a pas de frontières ni de nationalité.
Et tous les Allemands n'étaient pas des nazis non plus.
Voilà.
Je le dis d'autant plus que je viens d'une famille de résistants de 1940. Donc, vraiment. Un carnaval moche avait dit à Brossard dans un essai sur cette question. Quand les hommes se sentent dévirilisés parce qu'ils ont manqué de courage dans des périodes historiques, c'est sur les femmes qu'ils se vengent.
Oui. C'est ça. C'est très fort. On a vu aussi des images, Saddam Hussein, le tyran renversé, sa statue abattue, voilà, grand spectacle. Et bon, ça, on risque rien d'abattre une statue. Hein, ça,
ouais, surtout, ça cool, permet aux autres de continuer tranquillement derrière, hein, bien protégés.
Et de voir sa pendaison, enfin, toute cette espèce de mise en scène sur le bourreau. Tout ça est très interpellant et on voit beaucoup d'images comme ça. Actuellement, on désigne à la vindicte populaire, voilà, Osama Ben Laden, c'était le bourreau qu'il fallait abattre et qu'on a abattu. Et c'était terrifiant de voir ces Américains avec leur petit drapeau en disant on l'a eu, ce salaud, ce bâtard, vive les États-Unis. C'était quelque chose d'assez saisissant. Et je me dis, mais tout. Finalement, quelle est notre évolution par rapport à tout ça, par rapport à l'ancien temps? Parce qu'effectivement, on peut penser que ça se passe dans une période plus ancienne, les nouvelles et tout ça. Mais quelle est notre évolution par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a changé par rapport à ça? Et c'était ça que voulait interpeller ma nouvelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a de changé par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la nuit des temps sur la relation victime et bourreau?
On ne peut pas en dire plus, parce que malheureusement, il y a toute une problématique qu'on va découvrir en la lisant. Mais moi, j'étais vraiment bluffé par ce texte parce que il y a une astuce, mais qui permet justement de nous bousculer parce que je peux pas en dire plus. Mais vraiment, c'est une belle réussite. Et bon, c'est d'entre vous qui procureront l'anthologie, vous verrez. J'ai trouvé surtout, je l'ai dit dans la préface, que vous avez tous, j'inclus ceux qui sont, j'en ai repéré deux dans la salle et puis d'autres qui sont dans d'autres débats. Je pense entre autres à la dernière nouvelle. Celle de Xavier Mauméjean qui nous confronte au bourreau ultime. Je vous laisse essayer de deviner que peut être le bourreau ultime dans notre monde. Et bon, voilà, vous aurez la réponse dans le texte de Xavier. Je crois qu'il y a vraiment... J'ai hésité, je ne vous le cache pas, j'ai hésité, parce que le sujet, ce n'est pas moi qui ai l'idée. Je le dis, parce que je n'aime pas voler les idées des autres, même avec leur autorisation, sans le dire. Donc il y a une petite note qui rend... hommage aux deux personnes, je les cite, Charlotte Bousquet et Charlotte Volper, qui est éditrice chez Mnemos, qui m'ont dit, on va te proposer un sujet, mais tu l'accepteras pas, parce qu'on a une idée, ce serait génial, c'est dommage. Puis Charlotte disant, oui, on a eu l'idée, on a réfléchi, et puis j'aimerais bien créer une nouvelle sur un tel sujet. Et quand elles sont venues me proposer
ça... Là, je suis grillée. Non, mais on le savait, tu sais, Charlotte.
Non, pas moi, mais je suis un homme. Alors...
Ah oui, mais Pierre, c'est « on me dit rien à moi
». Non, j'ai hésité. Je vous le cache pas, j'ai hésité parce que je me suis dit, d'abord, le public, est-ce qu'on va leur vendre un truc intitulé « Victimes et bourreaux » Déjà qu'une anthologie, c'est pas évident de la vendre au grand public. Là, c'est peut-être... Alors bon, on va tomber sur les pervers, les sadiques et tout, mais les gens qu'on voudrait vraiment toucher, ça va être un peu compliqué. Bon, voilà, premier critère. Le deuxième, c'est je me dis, je vais ouvrir les vannes et qu'est-ce que les auteurs vont m'envoyer? Ils vont peut-être faire de la surenchère dans le sordide, dans le violent. Là, il y a des choses violentes, c'est sûr, mais j'étais extrêmement agréablement surpris. Il n'y a pas un texte qui m'ait posé de problème éthique. Il n'y a pas un texte, et ce n'est pas des textes gnangnans, hein, plein de bons sentiments ou de se posant que des évidences. Ce n'est pas un texte de bobo, pour parler net. Ce n'est pas un texte de gens bien pensants. Ce n'est pas un texte d'auteurs qui pensent tous pareil. Mais tous ont accepté de jouer le jeu, c'est-à-dire de se poser des questions, y compris, je sais, sur eux-mêmes. Parce qu'on est obligé, quand on travaille sur un tel texte, de s'interroger sur soi-même. Ce qu'a dit, il ne s'agit pas de s'autoflageller, on n'est pas au même niveau quand on n'a jamais torturé quelqu'un et quand on l'a fait. C'est sûr.
Tant mieux.
Oui, mais quand on trouve, par exemple, j'ai été très frappé récemment, il y a eu une conférence importante en 2009 d'Amnesty International à Paris, et parmi les gens qui disaient « il faut parler, il faut dire la vérité, le rôle d'un militaire c'est d'être courageux, et quand on a fait des actes déshonorants, il faut avoir le courage de le dire », et un militaire tortionnaire était là. Un ancien tortionnaire de la guerre d'Algérie qui avait adhéré à Amnesty International. Quel chemin! Qu'est-ce que vous en pensez aussi, vous, de la capacité, peut-être, même si ce n'est pas dans vos nouvelles, alors c'est une formule peut-être un peu chrétienne, mais après tout, beaucoup d'entre nous, surtout de ma génération, qu'ils soient croyants ou non, ont été éduqués dans cette culture, de la rédemption, parce que c'est aussi un thème qu'on trouve dans certaines de vos nouvelles. Chez vous, je n'irai pas de rédemption, Jeanne. C'est plutôt quand on n'est pas d'accord, on rompt.
Quand on n'est pas d'accord, on rompt. La rédemption, on ne peut la trouver que lorsqu'on a accepté d'avoir fait ce qu'on a fait. Et donc de dire. Et je ne suis même pas sûre qu'on la trouve juste à ce moment-là. Il faut vivre avec ce qu'on a fait. Il faut... Je me souviens d'avoir dit, une fois, nous les athées, nous avons un problème, nous n'avons qu'un seul Dieu, et c'est la loi de notre pays. Et qu'est-ce que dit la loi de notre pays par rapport à ce que nous avons fait? C'est très compliqué. Je ne crois pas, surtout pas à l'oubli. L'oubli, c'est la garantie de la purulence et la continuation du drame dans les siècles des siècles, la garantie de la transmission du péché. Si j'ose dire, puisqu'on est dans une phraséologie un peu chrétienne, je crois à la vérité et payer. Il faut payer ce qu'on a fait d'une façon ou d'une autre, et il faut accepter l'addition, quoi qu'il arrive. Parce que sinon, le crime ne se finit jamais.
Puis changer, c'est aussi être capable de tirer un bilan, j'imagine.
Exactement.
C'est un peu la leçon des...
À partir du moment où on a dit et où on paye, c'est ça changer.
Et payer forcément ne veut pas dire qu'on vous fait la même chose, qu'on vous...
Ah mais non, voilà. Payer, c'est accepter de se transformer pour cesser, voilà, d'être un bourreau. Et ça implique de s'être regardé en face, d'avoir vu dans le miroir l'horreur, et de se dire, mais cette horreur-là, comment est-ce que j'ai pu y arriver? Comment est-ce que toutes les valeurs qui éventuellement me créer ont pu m'amener à cette horreur-là, et comment est-ce que je vais faire pour accepter d'être ça aussi tout en changeant ça, parce que ça n'est pas possible que ça continue de cette façon. Voilà.
Pour pas être trop lourd, pour avoir aussi un peu d'optimisme, c'est aussi une anthologie où il y a du bonheur, et oui, là on a pris le pire, mais il y a du bonheur, il y a de la libération, il y a de la rupture avec l'horreur. Il y a de l'espoir et il y a des victimes qui gagnent. Hein, il y a aussi une anto optimiste. En lisant, y compris vos collègues, Charlotte Bousquet, sans raconter trop la vôtre d'histoire, c'est peut-être ce qui vous a surpris, on en discutait, que justement, ça ne soit pas une anthologie du tout, ni morbide, ni désespérée.
J'ai pas eu le temps de lire toutes les nouvelles, mais j'ai surtout trouvé que qu'il y avait énormément d'humanité dans toutes celles que j'ai lues. Qui avait aussi une certaine forme d'humour, même si c'est un humour un peu noir. Je pense notamment à la nouvelle de Michel Robert qui est pour un coup d'essai, un coup de maître, on peut dire ça. Hein. Elle est vraiment superbe. Elle est très âpre. Elle est pleine d'espoir, pas forcément pour la personne la plus sympathique finalement, mais et elle est humaine. Celle de Samnel, je vais parler des absents, elle est complètement est complètement étrange, je trouve. Enfin, elle est, enfin, c'est pour moi une des plus, peut-être une des plus originales, parce que c'est un monde en fait asiatisant, hein, qui et en fait on trouve une forme de transformation d'illumination à partir des cendres et du désespoir. Et j'ai trouvé que c'était aussi très très beau. Et puis l'exergue de Sam et résume à elle seule la nouvelle et ne devient pas un bourreau. Et j'ai trouvé qu'elles étaient donc du coup voilà, c'est, je crois que humaine c'est peut-être ce qui marque le plus.
Ce qui m'a aussi comme anthologiste surprise en lisant les textes au fur et à mesure qu'ils m'arrivaient, c'est que j'ai une théologie qui est assez en matière de répartition des sexes. Je crois qu'il y a 7 hommes et 5 femmes, donc c'est assez équilibré. J'y veille parfois, je ne sais pas pourquoi, mais j'y veille, j'avoue. J'ai ce réflexe, et souvent ça produit de la richesse, le mélange des sexes. Ça produit de la richesse, et dans cette anthologie, je pense que c'est... Alors c'est difficile, j'en parle, c'est celle que j'ai réalisée, mais bon, finalement, mon boulot, c'est de faire un casting. Hein. À partir du moment où le casting est bon, ça marche tout seul, et c'est les auteurs qui font le travail. Facile, hein, on a son nom sur la couve, mais en fait, c'est les autres qui font le boulot. C'est finalement le beau travail anthologiste. J'étais très frappé, par contre, du fait que, hormis Pierre, mais ce qu'on inflige, c'est un bourreau. Donc, c'est plus supportable, même si ça nous bouleverse quelque part, de découvrir l'histoire de ce bourreau, qui n'est pas si simple, on verra. Mais bon, pas dire plus. C'est peut-être que ce sont les femmes qui ont décrit le plus. J'ai trouvé souvent dans la façon dont la violence était suggérée, de la retenue de la pudeur chez les hommes. Et chez les scènes décrites sont essentiellement les scènes décrites, entre autres par Charlotte Bousquet, mais par des femmes. C'est quelque chose qui m'a frappé. Comme si, alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut y voir. Franchement, aucune consigne. Hein. J'ai donné un cadre, je donne 20 lignes aux auteurs pour leur expliquer un peu ce que j'attends. Ils ont une vraie liberté. Je pense que personne ne le contestera. Je ne suis pas du tout directif. Je ne leur dis pas je veux une histoire qui me raconte ça. Je découvre. Voilà. En général, ça fonctionne très bien. Toujours une histoire de casting. Comment vous avez interprété, pour les textes que vous avez lus, le fait que, justement, ce sont les femmes de l'anthologie qui ont osé décrire ce que pouvait être l'innommable, sans complaisance, mais parfois de façon brutale, et que les hommes aient eu plus de retenue?
Les hommes sont de grandes choses sensibles, c'est bien connu.
Pas tous, malheureusement, pas tous.
Je ne sais pas, je ne suis pas un homme, donc ça va être très dur. J'ai pas de théorie là-dessus. Je sais que ça m'a été difficile à moi d'aller au bout de ma nouvelle là, parce que, comme je le disais ultérieurement, les scènes de violence sont quelque chose qui m'arrache les tripes. Et donc, ben voilà. Mais c'était dans la logique de l'histoire. On ne peut pas. Je ne pouvais pas en faire l'économie. Sinon, on ne comprenait pas ce qui se passait, quoi. Donc, ben, je suis allée dans la logique de ce que je disais. Mais je n'ai pas d'explication pour Pierre. Surtout que Pierre, j'étais en train d'y penser depuis un moment. Un des départs de ma réflexion sur le thème que tu m'avais donné, c'était une scène des guerriers du silence où il y a une dame qui agonise sur une croix de feu. Je n'ai jamais oublié cette page, et pourtant j'ai dû lire ça il y a au moins 15 ans. Hein. Allez, je me suis dit, ça je ne pouvais jamais pouvoir, quelque chose comme ça. C'est pas possible. Je ne pourrais jamais l'écrire. Peut-être que Pierre, là, ce jour-là, il en a fait bien assez. Et puis dans L'Enjeu mineur, il est redoutable aussi.
Mais là, c'est sur les guerres de Vendée qui ont été redoutables.
Donc peut-être que lui, ça l'a calmé tout ça. Mais moi, j'ai pas eu le temps d'écrire Les guerriers du silence et L'Enjeu mineur. Donc voilà.
Je sais pas. Je me pose pas la question, c'est-à-dire que si je dois décrire une scène de violence dans les détails, parce que je pense que l'histoire l'impose, je le ferai. Pour la nouvelle, je pensais que ça ne s'imposait pas, donc je ne l'ai pas fait, c'est tout. Hein. C'est juste chaque histoire a sa propre logique et j'essaie de suivre au maximum la logique de l'histoire. C'est vrai que dans la nouvelle, on a assez peu de place pour s'exprimer, donc j'essaie d'aller à l'essentiel, et plus de suggérer que de décrire, parce que j'ai une tendance maniaque quand même à la description, qu'on m'a un peu reproché parfois, quoi, parce que c'est un peu lourd des fois la description. Mais je m'interdis rien hein, du tout. Alors si un jour je dois décrire une scène parce que je pense que cette scène doit figurer au livre pour X raisons, je le ferai sans le moindre état d'âme. Et y compris si ça doit déranger le lecteur. Parce que si je la fais, c'est que je pense, enfin si j'écris cette scène, c'est que je pense qu'elle est importante pour le livre, donc importante pour le lecteur, d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, je me pose pas la question et si oui.
Note bien que je ne te reproche pas cette image.
Non, dans ma tête. On m'a souvent reproché la violence de certaines de mes scènes, le rapport avec les femmes, les viols, etc. C'est vrai, on m'a reproché ça. Mais voilà, j'ai discuté avec des femmes après qui ont lu les descriptions des scènes de viol que j'avais écrites et elles m'ont dit comment tu as fait pour ressentir ces scènes-là. Voilà. Donc je pense que je suis un auteur. Un auteur, c'est quelqu'un de neutre. Je suis plus tellement un homme ni plus tellement une femme, mais j'essaie de me mettre dans la peau de mes personnages. C'est un petit peu le privilège des auteurs. L'auteur, c'est quelqu'un qui revêt des centaines, des dizaines de peaux différentes, et j'essaie d'être dans la logique du personnage, dans la logique de ce qui se passe. Et je pense qu'un des défauts peut-être que pour avoir un auteur, et un défaut duquel je me méfie beaucoup, c'est de me juger moi-même, de dire cette scène-là tu dois pas la faire parce que c'est pas bien, on va mal la ressentir, on va mal la juger, tout ça. Si je l'estime nécessaire, je la fais, tant pis. Quitte à prendre des risques, prendre le risque de ne reprendre plein la gueule en retour en disant mais c'est dégueulasse ce que t'as fait, tout ça. Mais ça fait rien, quand je pense que c'est nécessaire, je le fais. Donc bon, pour la nouvelle, ça s'est fait comme ça. Il y a un autre truc à propos de la pudeur des hommes et des femmes. Ce qui était très marrant, c'était les deux recueils érotiques qui avaient été... c'était Jean-Marc Ligny, je crois, et puis tout ça. Il y avait Vénus...
Cosmique et Erotica.
Vénus Erotica et Eros Millennium.
Voilà, Eros Millennium.
Et donc Eros Millennium, c'était les hommes, et Vénus Erotica.
Cosmique Erotica.
Cosmique Erotica, c'est les femmes. Et les femmes étaient 10 fois plus crues que les mecs, quoi.
Oui, mais là, je les soupçonne à l'époque. Je l'avais dit d'ailleurs dans la postface de ma propre anto-érotique. Je les soupçonne d'avoir été en revendication et en provoque.
Les femmes.
Les femmes. Ouais. Parce que les deux anthologies qui ont paru 10 ans plus tard, à savoir 69, dans laquelle tu as participé, il me semble, non ?
Oui, tout à fait.
Qui a été édité chez ActuSF et Chasseurs de fantasmes, que j'ai dirigé pour Griffe d'encre. Finalement, il y avait un équilibre qui était tout à fait parfait, de mon point de vue. Je ne voyais pas que mâle ou femelle, où était la différence quant à ce qui était montré ou caché. Ce que je voyais, c'est que dans les deux anthologies, c'est un égal amour de la sensualité et qui était également montré. Il n'y a eu que, d'une certaine façon, qu'un seul trublion, c'était Christian Villa, mais
elle est terrible, ça.
Elle est complètement extraterrestre, la nouvelle de Christian Villa dans Chasseurs de fantasmes. Et c'est la dernière nouvelle du recueil. On se dit là, si on la met avant, les lecteurs ne vont pas terminer l'anthologie. Même Christian, qui est allé au bout de l'horreur et de l'amour, mais alors vraiment de l'horreur aussi, il était sensuel. Mais la différence n'était pas dans le sexe. Elle n'était pas dans la plomberie de la baise. Tout c'était vers le sens et l'affect, avec une égalité qui m'a paru très intéressante du point de vue de l'évolution.
Nathalie, vous avez quand même choisi, contrairement peut-être à Pierre, à Charlotte et à Jeanne, qui bien sûr ont des personnages, suivent ces personnages, mais insèrent leurs histoires de victimes et de bourreaux dans des collectifs. C'est une guerre et une population, c'est dans une société où il y a des complots, etc. C'est dans une école, une académie, une école de formation. Chez Nathalie, bien sûr, il y a un bon background avec un roi, avec des mariages, avec des etc. Mais on est quand même centré autour d'une histoire d'un couple.
Oui, c'est un texte qui est très intimiste, en fait. Et je ne sais pas si je dois me reconnaître, en fait, quand tu dis que les femmes montrent plus, parce qu'il n'y a pas vraiment de scène de violence physique dans mon histoire. Je me suis vraiment attachée à décrire le processus psychologique qui peut amener une personne comme vous et moi, parce que c'est un homme, mais ça aurait pu être une femme. Je pense que ce qui arrive à Néra Stirbald aurait pu arriver à un personnage féminin également. Et c'est donc vraiment comment une personne... normal à un moment donné, parce qu'elle perd la confiance en elle-même, en l'autre, elle va basculer, donc en se croyant victime, elle va devenir bourreau. Et c'est, mais je sais d'expérience que la violence
une victime de plus
peut être peut être extrêmement violente et ça nous choque moins parce que ça se voit pas. C'est comme pour les handicaps. Quand vous avez une maladie invalidante qui ne se voit pas parce qu'il ne vous manque pas un membre, parce que vous n'êtes pas en fauteuil roulant, parce que vous n'êtes pas mutilé, on n'arrive pas à croire que vous êtes en souffrance. Et mine de rien, les gens dont les mots ne se voient pas deviennent victimes de la société justement parce que ça reste au niveau de l'être et de leur intimité. Et ce n'est pas dans le paraître. Donc voilà, mais je pense qu'il y a une violence, oui, et que ça ne sera pas forcément évident d'en mesurer l'intensité parce qu'elle n'est pas physique.
Vous avez deviné, on est resté assez pudique, mais vous avez senti quand même des petites choses, mais on restera comme ça, que les auteurs ont beaucoup mis quand même d'affect dans cette anthologie, et parfois des choses extrêmement personnelles. Parfois on parle de soi quand on écrit des textes de fiction, on dit des choses extrêmement intimes et délicates, mais la fiction, c'est la pudeur des écrivains, c'est celle qu'ils vous ont offert, c'est dans Victime et Bourreau, l'anthologie numéro 3 du festival. Bonne découverte, merci à tous. Évidemment, les auteurs se précipitent à la Bulle du Livre, je les accompagne cette fois-ci, on va signer.
Tu nous surveilles, c'est ça?
La piste, si on ne signe pas, elle nous fouette.
Oh.